Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai que ça va être difficile pour moi parce que vous avez déjà entendu énormément de choses durant toute cette matinée. Donc, toute cette journée, mon intervention sera peut-être un petit peu comme une synthèse de ce que vous avez entendu. Et finalement, la voix d'une conservatrice de musée après une journée d'architecte, c'est pas mal, je crois. Voilà. Donc, effectivement, je vais m'appuyer sur mon expérience au Musée des Beaux-Arts de Nantes. En 1801, ce musée des Beaux-Arts est créé comme 15 autres musées dans une France large, parce que vous savez que Bonaparte avait une vision assez large de ce qu'était la France, sachant que Bruxelles, Genève, Mayence en faisaient partie. Donc, les grandes villes de France vont avoir le droit de créer un musée, puisque seul le muséum central était autorisé. Et en 1801, à la suite de toutes les récupérations napoléoniennes, le musée central débordait et il était temps de mettre en place une politique régionale avec l'envoi d'une quarantaine de tableaux. Première philosophie muséale, ces musées qui étaient musées de beaux-arts, forcément, recevaient grosso modo 50% de peinture française, 25% de nordique, 25% d'italien. Et les lots étaient tirés au sort. Donc, ça n'avait rien à voir avec les régions dans lesquelles ces lots étaient envoyés. Assez vite, la ville de Nantes va faire une chose assez formidable. C'était la première ville à faire ça. Elle va acheter une collection, la collection Cacot. François Cacot avait négocié pour Bonaparte le Concordat à Rome et revient avec plus de 1000 tableaux que la ville achète. Et c'est ainsi que la grosse collection remarquable de peinture italienne rentre au musée. Mais la ville n'installe pas tout de suite son musée. En fait, les œuvres sont dispersées dans l'hôtel de ville et il faut attendre 1830 pour que la ville crée un vrai musée dans une ancienne halle aux toiles que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais assez vite maintenant. À la suite de ce bâtiment, à la suite de la création de ce bâtiment, les donations vont arriver, le musée va s'enrichir très vite. Plusieurs inspections vont montrer que la halle aux toiles ne suffit plus. Et la ville de Nantes est une des dernières villes à créer un grand musée, un palais des arts, que nous allons voir également, qui va être créé par l'architecte Clément Josseau, Grand Prix de Rome. Ça va être sa seule grande œuvre parce qu'il a eu quelques problèmes et ensuite, il n'aura plus d'aussi importantes commandes. Puis, il faut attendre un peu plus d'un siècle pour que le musée soit rénové, agrandi par un groupe anglais, Stanton Williams, avec qui j'ai effectivement travaillé pendant près de 10 ans. Alors, je voulais vous montrer quand même quelques œuvres, parce que j'ai du mal à ne pas imaginer qu'un musée, c'est avant tout pour la présentation de collections. Et donc, voilà les premiers envois de l'État en 1801. Vous avez Le Pérugin, Guy d'Aurigny, Vouet, Bruegel, Rubens, La Fosse. Vous voyez une vision extrêmement large de ce qu'est la peinture, parce que ce sont des musées essentiellement de peinture à cette époque-là. La collection Cacot en 1810, je ne montre que deux œuvres les plus remarquables, parmi les plus remarquables, Le Pérugin, mais la tour, par exemple, il faut savoir qu'il y en a trois qui, à l'époque, évidemment, étaient données à des artistes italiens. Il va falloir attendre le début du 20e pour que ces tableaux soient donnés à la tour. Voici le musée Clark de Feltre, qui est donc installé dans la halle aux toiles. Alors, ça me semble important de souligner qu'à cette époque-là, en 1852, il n'y a pas de réserve, bien sûr. Vous avez le conservateur du musée qui habituellement est directeur de l'école des beaux-arts et vous avez toutes les œuvres qui sont présentées au mur. Donc c'est un accrochage extrêmement serré qui n'est pas forcément par école d'ailleurs, c'est plutôt là où on a un peu de place qu'on va mettre les œuvres au fur et à mesure. Là où on a un peu de place parce que la ville de Nantes avait pris une très bonne habitude en achetant cette collection en 1810 et elle va toujours acheter, mais elle achète à ce moment-là l'art contemporain de son époque. Elle achète de la croix, du vivant de la croix, Ingres, du vivant d'Ingres, puisque Ingres va authentifier Madame de Sénone, qui avait été achetée à Angers, chez un brocanteur. Les descendants de Madame de Sénone, considérant que, comme elle était roturière, il ne fallait surtout pas garder ce tableau chez soi. Grâce à ça, le musée des Beaux-Arts de Nantes bénéficie d'un des plus beaux tableaux d'Ingres. Et puis Courbet, l'écribleuse, qui est achetée du vivant de Courbet, grâce en fait au salon qui se tenait annuellement à Nantes. Et les artistes savaient que la ville de Nantes achetait. Et donc ils ont envoyé en général des pièces assez remarquables. Et puis, fin 19e, là, l'eau toile ne suffit plus. Elle est pleine comme un œuf. Plusieurs inspections soulignent le fait que les conditions de conservation ne sont pas très bonnes. Et donc, je vous disais, la ville de Nantes va décider de construire son palais des arts. Alors, il est construit, et c'est pour ça que je dis un peu une synthèse, il est construit comme le musée d'Amiens dont on nous a parlé ce matin. C'est le même type de construction exactement, comme le palais des Beaux-Arts de Lille. Ces grands palais qui sont faits avant tout pour les Beaux-Arts, avec un plan central très simple, un patio, alors celui-ci est couvert dès l'origine, des galeries au rez-de-chaussée qui ont des éclairages latéraux, et au premier étage, de grandes galeries avec un éclairage zénithal. Alors je dois vous dire que l'éclairage zénithal à Nantes est assez formidable, puisque il y a une très belle lumière, assez douce et assez légère, et qui change au fur et à mesure du passage des nuages. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, avec un hall d'entrée suffisamment grand. Le voilà, en haut à gauche. Vous voyez que dès le départ, les architectes avaient prévu d'accueillir de façon très large le public. Et puis, vous avez ce patio, ce fameux patio qui, à l'époque, était rempli de sculptures. Alors, ces sculptures vont rester dans ce patio jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, Nantes fait partie de ces villes bombardées sauvagement, et on va vider le patio de toutes ces sculptures pour transformer ce patio en chambre mortuaire. Elles n'ont jamais été réinstallées dans le patio. Un certain nombre ont d'ailleurs, il y avait des plâtres, et vous savez que nos plâtres ont malheureusement eu une période de désamour si fort que certains ont disparu. Mais il reste encore pas mal de choses et ça va être à nouveau réinstallé, vous allez voir tout à l'heure, dans différents endroits. Ces grandes galeries, ces formidables grandes galeries qui font 12 mètres de haut, une lumière naturelle magnifique, qui permettent d'accrocher les collections sur plusieurs niveaux, chose qu'on fait un tout petit peu moins, mais enfin, malgré tout. Et là, à partir de 1900, on accroche par école. Donc vous avez sur la photographie du bas, un accrochage des collections italiennes. Le musée avant travaux. Vous allez me dire pourquoi fallait-il rénover ce musée. Alors effectivement, à la fin des années 70 et pendant les années 80, le musée a fait l'objet d'un lifting. On a enlevé tous les rajouts qui avaient été faits au fur et à mesure des années. En particulier dans les grandes galeries, il y a des mezzanines qui avaient été construites, il y avait toute une série de choses qui avaient été construites. Le musée va retrouver ses volumes d'origine. Au rez-de-chaussée, comme ça arrive souvent, une bibliothèque s'était installée sur une partie du rez-de-chaussée et elle va être transférée dans une médiathèque. Donc le musée retrouve ses espaces, on repeint en blanc et on nettoie. Et vous voyez ici, par exemple, l'escalier monumental retrouve toute sa splendeur. Alors, le patio vidé de ses sculptures devient salle d'exposition temporaire, 1200 m² en lumière naturelle, qui permet une souplesse énorme, en fait, puisque chaque fois, il faut construire une muséographie différente pour chaque exposition. Et puis, le hall d'accueil, finalement, le hall d'accueil, c'est lui qui va accueillir une partie de la collection de sculptures qui sera présentée. Alors, ce travail de rénovation qui a été mené, entre autres, par Henri-Claude Cousseau, va faire que la ville considère que son musée est rénové. Mais Henri-Claude Cousseau, très bon conservateur, va acheter énormément et va bénéficier de dépôts d'État également. Donc, en moins de 20 ans, ce sont plus de 850 œuvres qui rentrent au musée. Alors, il va se poser une double question. D'une part, cette collection d'art contemporain, il faut la présenter, la ville de Nantes, ayant toujours acheté de l'art contemporain, se présentant comme une ville de son siècle et de son époque. Et puis, eh bien, ce musée, petit à petit, eh bien, le lifting n'a pas tenu, comme tout lifting. Donc il pleut dans le musée. Ce musée n'a pas de réserve, ce musée n'a aucun service contemporain, il n'y a pas d'espace pédagogique, il n'y a pas d'auditorium. Et donc, il faut en fait revoir les choses. Alors, j'ai eu l'immense privilège d'arriver au moment où le musée du château s'ouvrait. Il y avait une fenêtre de tir de 3 mois. Et je suis arrivée à faire un bilan en expliquant qu'on ne pouvait pas continuer à avoir un musée avec la réputation qu'avait le musée des Beaux-Arts de Nantes sans réserve, parce que ce n'était pas vraiment digne, sans auditorium, sans espace pédagogique. Et j'ai eu la chance d'être entendue. Alors, ensuite, il y avait une autre donnée, qui était une donnée assez essentielle. C'est pas tout à fait ça, mais je vais du coup vous parler mieux quand même, parce que je vois que c'est le problème de l'informatique. Ensuite, il y avait un autre sujet, un sujet de fond extrêmement important. La ville de Nantes, vous le savez sans doute, l'ensemble des chantiers navals ont fermé à la fin des années 80. Et une grande partie des chantiers navals étaient installés juste en face du centre-ville, sur l'île de Nantes. Donc la ville commence à réfléchir à l'urbanisation de cet immense espace. Et un certain nombre de décideurs, aussi bien d'élus que de gens faisant partie du monde culturel, considèrent, et c'est ce qu'on a fait énormément en France, qu'il faut séparer les beaux-arts anciens de l'art moderne et contemporain. Il se trouve que je n'ai pas cet avis-là et que je considère que c'est essentiel de lire la création contemporaine à l'aune de l'histoire de l'art. Et donc, assez vite, je sais qu'il y a un espace disponible à l'arrière du musée. Et je propose donc, au contraire, de faire un musée d'art depuis le XIIIe siècle jusqu'à l'art contemporain. Et que nous restions au même endroit, sachant que le musée des Beaux-Arts est très apprécié et très aimé des Nantais. J'ai la chance, en fait, de l'emporter pour une raison politique très simple, c'est qu'effectivement, pratiquement tous les nouveaux projets étaient sur l'île de Nantes. Et de fait, le centre-ville n'était pas abandonné, mais il n'y avait pas de projet pour le centre-ville. Et donc, la rénovation et l'extension du musée des Beaux-Arts en centre-ville l'a emporté, puisque ça rééquilibrait, en quelque sorte, tous les travaux faits sur l'île de Nantes. Donc, cette programmation, c'est donc avant tout faire un seul musée généraliste, donner à l'art contemporain la place qu'il mérite au sein même de l'ensemble des collections, prévoir une offre culturelle ambitieuse avec auditorium, salle pédagogique, cabinet d'art graphique, bibliothèque, documentation. Et puis, alors c'est évidemment ce qui coûte le plus cher, remettre à niveau le bâtiment. Réfection de l'ensemble des verrières, contrôle du climat qui n'était pas du tout, insonorisation, construction de réserves, etc. Les réserves vont être construites, pour ma plus grande chance, à l'extérieur. Et alors, ces réserves construites à l'extérieur, c'était un très bel outil de travail. C'est à la limite du centre-ville, tout dépend du chauffeur. C'est entre 17 et 22 minutes en voiture du musée, mais ça permet d'avoir un véritable outil de travail extrêmement performant. Les grandes étapes, donc 2007, étude de faisabilité, 2008, étude de programmation avec le cabinet Aubry-Guiguet, 2009, concours international. C'est une équipe anglaise qui va être désignée. Il y avait 5 candidats, Perrault, Emmanuel Gondran, Barani, Gaël Penaud et donc Stanton Williams. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler avec eux parce que je dois avouer que pendant plusieurs années, parce que de 2009, 2010, 2011, nous avons fait l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, et ça a été un échange extrêmement fructueux, sympathique, et d'une écoute assez formidable. Sachant que Stanton Williams, Paul Williams, est muséographe, il travaille beaucoup pour les musées anglais. Donc on avait un véritable échange de fonds. 2011, dépôt du permis de construire. En septembre, nos nouvelles réserves sont prêtes. Nous déménageons et nous traitons toutes les collections et nous faisons le récollement décennal à l'occasion de ce déménagement. Et puis, malheureusement, tous les sondages n'avaient pas été faits. Puisque nous étions installés dans le musée, tout n'était pas possible. Et fin 2011, on s'aperçoit qu'il y a des niveaux d'eau importants. Dans ces cas-là, tout le monde a toujours une très bonne raison. Tout le monde sait que tout le monde le savait avant. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous sommes bien au-dessus de la Loire. Et c'est une explication géologique. Depuis, j'ai fait des progrès en géologie. Nous sommes sur du schiste dégradé, et donc il y a des piscines d'eau. Aussi simplement que ça. Voilà, donc arrêt du chantier. Et alors, j'ai oublié de vous préciser qu'il était prévu que ce chantier se fasse en deux temps. Le premier temps était la construction du bâtiment neuf et les sous-sols, et le deuxième temps, la rénovation du bâtiment ancien. Je dois avouer que j'avais poussé à cette hypothèse, sachant qu'une fois que j'avais le pied dans l'affaire, une fois que nous avions fait le sous-sol et le bâtiment neuf, la rénovation du bâtiment ancien était absolument incontournable. Il faut donc reprendre le permis de construire, refaire des appels d'offres, et c'est là où j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Il se trouve qu'on ne pouvait plus faire les choses en deux tranches, il fallait tout faire d'un seul coup. La presse a bien sûr dit que le musée coûtait deux fois plus cher. Non, il ne coûtait pas deux fois plus cher, mais les deux tranches étant réunies, c'était effectivement le prix global du musée. Bon, ça n'a pas été le moment le plus facile, parce que j'ai bien cru que j'avais fermé un musée et qu'il n'était pas sûr que je le réouvre. Donc voilà les façages après la décision de tout faire en une seule tranche. Pour un total hors taxe travaux, uniquement travaux, parce que si on ajoute tout, c'est bien plus cher, 48,9 millions d'euros, le musée passant de 11 000 m² à 19 000 m², sans compter les réserves et sans compter les bureaux que nous avons été obligés de sortir, puisqu'il y a une partie du sous-sol qui était un sous-sol technique que nous n'avons pas pu faire. Voilà le projet de Stanton Williams, en partie d'ailleurs. Ils ne touchent donc pas du tout à la façade principale. La seule chose qu'ils font sur la façade principale, c'est qu'ils vont aménager une terrasse, une entrée beaucoup plus accueillante. Mais vous avez sur la photo de gauche le cube qui va accueillir les collections contemporaines et qui répond en fait au bâtiment de Josso, qui est aussi aveugle, mais parce que dans un musée de Beaux-Arts, on a souvent besoin de murs pour accrocher. Donc il y a quelques fenêtres qui donnent de la lumière naturelle, pour retrouver cette lumière naturelle si formidable dans le bâtiment ancien. Vous avez la construction sur le côté, mais je vais vous montrer un plan, ça sera plus simple tout de suite, de la documentation, bibliothèque et cabinet d'art graphique. Et puis, sur la photo de gauche, vous avez la façade de ce cube contemporain. Cette façade, en fait, accueille l'escalier qui va desservir les quatre niveaux du bâtiment contemporain. Et c'est un escalier dans lequel les architectes ont essayé de retrouver la magnificence de l'escalier monumental du bâtiment de 1900, puisque c'est on n'a pas le droit de regarder dans le jardin du voisin. Vous allez comprendre le plan suivant tout de suite. Non, enfin, on ne voit pas trop, mais voilà. Et c'est une façade qui est en marbre, qui est à la fois isolante, parce qu'il y a une lame d'air qui isole, et en même temps qui est complètement translucide, et qui, effectivement, donne une très belle lumière. Voilà, sur le plan masse. Donc, vous voyez en haut, à gauche, le bâtiment contemporain, le cube, puis, alors je vais essayer de voir si je sais faire marcher, oui, je sais faire marcher, donc ici le bâtiment contemporain, le bâtiment ancien qu'on ne touche absolument pas, on rénove et on travaille sur le climat, mais sinon on ne le touche pas, ici ce nouveau parvis qui permet un accueil généreux sur la rue, ça ne donne sur rien, donc on fait un accueil généreux, mais on ne peut pas démolir les bâtiments qui sont juste en face. Un bâtiment privatif, ici, avec son jardin, ce qui compliquait un petit peu la vie. Et ici, vous avez allé avoir la documentation au sous-sol et rez-de-chaussée. Et puis, dans les étages, le cabinet d'art graphique. Donc ici, on retrouve les deux photos avec le dos du cube qui reprend la pierre du musée. Les nouveaux services, et ça c'est une chose qui pour nous a été vraiment, ça va être formidable pour tout le monde parce que jusqu'à présent, et le musée était assez bruyant à cause de ces grandes galeries, nous recevions tous les enfants, quelques 35 000 têtes blondes par an, dans les espaces d'exposition permanente. Et c'est vrai que des ateliers pédagogiques, ça va rendre service à tout le monde. Il y en a trois. L'auditorium qui est un auditorium plat, parce qu'il doit pouvoir servir à plusieurs choses. D'une part, il peut servir, puisque tous les sièges sont amovibles, il y a 180 places, il peut servir à des performances, mais il peut aussi être installé pour des projections vidéo, puisque le Musée des Beaux-Arts a une grosse collection vidéo. Alors, faire un musée aujourd'hui, c'est une chose compliquée. Nous continuons à avoir un rôle pédagogique important, donc nous continuons à travailler sur un circuit chronologique. On démarre avec le XIIIe siècle et on termine dans le cube avec l'art contemporain. On essaye d'utiliser tous les types d'accrochages possibles. Certaines salles sont... Enfin, c'était ce que j'avais prévu, mais je crois que mes collaborateurs ont gardé en grande partie ce que j'avais choisi. Certaines salles, et en particulier pour l'art ancien et pour le 19e, vont avoir un accrochage assez dense, et en même temps, les œuvres majeures seront isolées. On pourra faire autour d'artistes, parce qu'il y en a un certain nombre de fonds pour le 19e, de fonds d'atelier, faire un ensemble. Les techniques sont mélangées, peinture, sculpture, vidéo, ainsi que parfois la chronologie va être bousculée avec quelques présentations ponctuelles, thématiques, où vont être mélangées l'ensemble des périodes représentées et couvertes par le musée. Nous avons beaucoup travaillé sur cette muséographie, parce que j'avais demandé aux architectes surtout de ne pas couper ces grandes galeries, qui me semblaient être une chose assez formidable, mais elles sont vraiment énormes. Et en même temps, nous avions besoin de murs pour présenter un certain nombre de petits formats et surtout pour arrêter le visiteur. J'ai quand même vu quelques visiteurs faire cirer nos parquets. Ils couraient, ils glissaient. Et donc, je pensais qu'il était vraiment important, d'une part, de présenter tous nos petits formats, de présenter des sculptures, et en même temps, de ne pas couper, de laisser ces grands espaces très généreux. Et donc, les architectes ont inventé cette espèce de petit montage, puisque l'ensemble des cimaises de centre de galeries sont démontables et sont modulables. Donc, c'est une espèce de Lego, c'est un gros Lego, mais ça permet en même temps d'avoir une présentation la plus mobile, la plus souple possible, alors que nous sommes dans des espaces très traditionnels. Pour l'art contemporain, les choses étaient plus simples. On n'allait pas présenter de façon chronologique, ça n'avait pas de sens. Donc, nous avons repris quelque chose qui est très largement développé aussi bien au Musée national d'art moderne qu'à la Tête moderne à Londres. Nous avons développé chaque niveau par grandes thématiques, la peinture, les territoires, la mémoire et le corps. Pour chaque niveau, les techniques sont toutes mélangées, peinture, sculpture, photo, vidéo, installation. Et là aussi, parce que c'était très important qu'on n'ait pas l'impression que l'art contemporain était isolé du reste, et d'ailleurs on a fait très attention au passage des grandes galeries au cube, des œuvres d'époques différentes. C'est ainsi que, par exemple, dans le niveau 2 sur le paysage et la nature, nous avons introduit un certain nombre d'œuvres et du 19e et même du 17e, parce que je crois qu'il y a un Van der Meulen qui était prévu dans l'accrochage. Voilà l'exemple de ce cube contemporain. Ce sont des espaces de 400 mètres carrés où l'ensemble des cimaises sont mobiles. C'était ici simplement un exemple de présentation, parce qu'il nous fallait être sûr que un certain nombre de nos œuvres tenaient. Alors, ça, c'est une notion qui me semble très importante quand on dit que les choses ont considérablement évolué. En effet, comme je vous le disais, le musée Clark de Feltre, c'est une collection qu'on accroche et on ne bouge les choses que chaque fois qu'il y a une acquisition. Et puis, petit à petit, le musée se vide, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. On met un certain nombre d'œuvres en réserve, on ne garde plus que les œuvres qui nous semblent absolument essentielles, mais on garde un accrochage statique dans ce qu'on appelle les collections permanentes. Depuis 1977, les choses ont beaucoup bougé. Et hormis un certain nombre de chefs-d'œuvre qu'on aime retrouver et qu'on doit, à mon sens, retrouver, parce que pédagogiquement, ça permet d'avoir comme ça des points de repère, les collections tournent. Aussi bien dans des endroits aussi importants que le Centre Pompidou que, par exemple, maintenant, au musée Picasso, qui applique en permanence cette notion de movement inventée par Francis Ponge, qui montrait à quel point il était important de lire, de relire les collections. On sait très bien, chaque fois que l'on change de voisin à une œuvre d'art, on lui change de son sens. Et donc, c'est aussi une façon de dynamiser en permanence ces collections permanentes. L'événement, et ça c'est très compliqué pour nous conservateurs de musées, est central au milieu des collections permanentes, donc on passe son temps à faire le grand écart entre le permanent et le temporaire. Les accrochages sont de plus en plus thématiques, donc souvent pluridisciplinaires. On essaye donc d'être transchronologique, d'échapper à la sacro-sainte histoire de l'art et de lire assez différemment les collections. C'est ainsi que souvent, aujourd'hui, les musées invitent des artistes contemporains à venir lire et accrocher leurs collections et donc à proposer, en fait, de nouvelles lectures aux collections. Enfin, j'ai donc quitté fin 2015 le musée des Beaux-Arts de Nantes. Il était presque fini, il restait les poignée de porte à choisir et j'ai considéré que je n'étais pas indispensable pour cette mission. J'ai rejoint le service des musées de France et il y a une mission importante qui a été mise en place à la fin 2016, animée par Jacqueline Edelman, sur les musées du 21e siècle. Nous avons arpenté la France, rencontré environ 700 acteurs. Et nous avons essayé de faire un recensement de toutes les grandes opérations que chaque musée peut faire vis-à-vis de ses collections et de ses publics. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du dynamisme de nos musées français, sans forcément beaucoup de moyens, mais avec une implication absolument remarquable des responsables de ces collections. Et ce qui en est sorti, il y a énormément de choses qui sont sorties, mais ce qui en est sorti tout particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, le musée doit être une maison commune. Le musée est un endroit où les gens ont envie de se retrouver, de participer aussi. La co-construction est une chose qui est très largement non seulement demandée, mais pratiquée. Un certain nombre de musées, je pense en particulier au musée des Confluences, qui très souvent fait participer un certain nombre de publics à ces expositions temporaires. Bien sûr, les espaces de convivialité, on ne peut plus se passer dans un musée d'avoir des espaces de repos, des espaces informatiques où les gens peuvent venir consulter sur les bornes nos collections, puisque, il faut quand même le dire, nos collections sont en grande partie numérisées. Alors, elles ne sont pas toujours sur le net, mais dans les musées même, elles sont disponibles. Des espaces où les gens vont se rencontrer, vont prendre des repas, vont se donner rendez-vous, parce que finalement, le musée est climatisé quand il fait chaud, lui aussi. Et donc, cette notion de maison commune est un des éléments essentiels qui est ressorti de cette rencontre avec l'ensemble des professionnels. Et pour conclure très simplement, je vous ai mis une œuvre que j'ai qui a été acheté par le Musée des Beaux-Arts de Nantes pendant que j'y étais, qui est la seule œuvre de Joan Hanson dans les collections publiques françaises, mais qui, à mon avis, résume assez bien ce que peut être un musée, d'où il vient et ce qu'il peut devenir. C'est donc La Dame du Marché aux Puces. Beaucoup de nos œuvres viennent parce que nous avons des concitoyens qui se sont attachés à ces œuvres, qui les ont conservées, et notre rôle est de le transmettre avec le plus, j'ai envie de dire, de convivialité, avec le plus d'études, le plus d'informations qu'on puisse donner, et en même temps, quand on est au marché aux puces, quelquefois c'est le simple coup d'œil qui fait qu'on s'arrête et qu'on a envie de voir une œuvre. Je vous remercie.